Est-ce les jumeaux numériques?
Alors effectivement, les jumeaux numériques, c'est le fait que on va faire en sorte de confier à des sommes informatiques effectivement la conduite d'un certain nombre de nos activités quotidiennes, éventuellement. Alors ce sera pour essayer des vêtements, ce sera éventuellement pourquoi pas voir si nos tempéraments peuvent fonctionner avec d'autres personnes pour une vie sentimentale, éventuellement pour tester, visiter un appartement, en tout cas faire en sorte que ces jumeaux numériques soient un peu à des tests, des éléments qui permettraient d'éprouver des pratiques, éventuellement des rencontres, sans engager la personne humaine, qui pourrait nous permettre à la fois de préserver notre intégrité physique, également notre disponibilité, puisqu'on pourrait ainsi envisager qu'on ait plusieurs jumeaux numériques pour tester, et d'ailleurs pourquoi pas, à l'occasion d'une opération chirurgicale, qu'on teste sur un modèle, en quelque sorte, et qu'on ne se préoccupe de la véritable intervention que quand on est parfaitement au point.
Vous avez l'air euphorique et ravi de ce que vous annoncez. Est-ce qu'il y a un versant plus inquiétant, plus sombre?
Alors effectivement,
lié à chaque fois... avatars numériques.
Effectivement, à chaque fois qu'on a conçu des environnements numérisés qui permettent d'avoir des loisirs, d'échanger des informations, de monnayer des activités, à chaque fois il y a eu un appétit des organisations criminelles ou des activités malveillantes qui se sont appropriées. Même notre très très ancien Minitel a suscité assez vite des activités liées à la pornographie, à la prostitution. Donc les technologies le font, même les Google Glass que Google avait envisagé pour voir l'environnement. Vous savez, ces lunettes qui permettaient de se placer déjà dans un univers numérique, assez vite, elles ont été utilisées à des fins, en tout cas que la morale ou quelquefois que la légalité réprouve, et qui fait que l'entreprise a fait marche arrière et a dit « il n'est pas encore temps ».
Alors Laurence de Villers, où en serons-nous, nous, dans 10 ans, en 2032, dans notre rapport au clavier, aux écrans, dans notre dépendance aux écrans? Pour beaucoup d'entre nous, depuis 10 ans, ça ne s'est pas forcément arrangé, ou en tout cas calmé. Est-ce que dans 10 ans, on sera encore un peu... Vous dites vous-même qu'ils seront même à l'intérieur de nous-mêmes, pour certains.
Il y a deux solutions, il y en a peut-être trois, mais pour l'instant, j'en vois bien deux. On serait, nous, l'interface. Donc on n'aurait plus d'écran et on n'aurait plus non plus de clavier.
Ça on a des lunettes avec des écrans sur les
lunettes. On a des lunettes, on est dans l'immersion, et puis on ressent, on peut avoir aussi des implants dans le corps, pour ouvrir des portes, payer, etc. Mais aussi pour être soigné, donc on a toutes nos informations quelque part. On peut aussi avoir un espèce de Jiminy, un petit objet artificiel, un aide, un assistant, il va être là surveiller nos données. Il va nous donner des conseils,
il va nous manipuler. Avec le risque de bugger, si j'ose dire aussi, de tomber en panne.
Ah oh non, dans 10 ans, vous voyez, déjà, Lambda de Google AI nous prédit qu'un agent conversationnel, c'est un système qui parle aussi bien qu'un humain. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'entends l'autre jour sur de Facebook? Finalement, réparer des machines, réparer de l'IA, de l'apprentissage machine,
IA,
c'est plus simple.
Artificielle. Non, je traduis pour ceux du siècle dernier.
C'est-à-dire ces modèles qui apprennent à partir de beaucoup de données. Ouais. Et ben, c'est plus facile, si vous voulez, de leur apprendre à bien faire qu'à un humain de lui dire de bien faire.
D'accord.
Et donc là, il y a une dérive totale. Donc ça, c'est la possibilité d'être dans cette dérive, ce que j'espère, moi. C'est que dans 10 ans, on aura pris conscience aussi de la dépense d'énergie de tous ces objets autour de nous. Alors, est-ce qu'on veut que nos prés, nos champs soient remplis de data centers? Est-ce qu'on veut avoir des antennes partout pour relayer toutes ces informations? Est-ce qu'on veut être nous-mêmes totalement, finalement, pris dans ces systèmes, dataifiés? Toutes nos vies seraient sous forme de data, avec derrière la manipulation terrible. Moi, j'ai fait des expériences, beaucoup en réalité virtuelle. On n'a plus cette distanciation à la machine. Déjà, quand vous êtes devant votre écran, vous voyez des trucs qui vous attirent, bon, un peu de mal. Mais quand on est dedans, physiquement, on le vit. Physiquement, on le ressent.
Nicolas Pagion, ces jumeaux numériques dont vous parliez, si j'ai bien compris, concernent les vivants. Mais sera-t-il possible de faire de même avec les morts et donc possiblement d'interagir avec les personnes décédées parce qu'on aura créé leur avatar avant leur disparition?
Alors effectivement, la question va se poser de la durabilité des individus et des personnalités. Déjà aujourd'hui, on vous dit qu'est-ce qu'il advient de la présence sociale, de la présence numérique des personnes une fois qu'elles sont décédées. D'ailleurs, les notaires demandent que ce soit prévu dans les dispositions testamentaires. Par contre, la question est de se dire, est-ce que je ne vais pas enregistrer des séquences d'un être cher de manière à continuer à le faire vivre, et peut-être que par un enregistrement déploiement de ces actes pendant des semaines, des mois, je vais être capable de créer un personnage qui pourra, alors évidemment, interagir avec une capacité de création.
Mais ça, ça change le rapport à la mort, pardon. C'est métaphysiquement,
ça, effectivement. C'est-à-dire que, et c'est là une des difficultés, c'est que ça aliène la notion de prise de risque, la notion de finitude. Pourquoi ? Parce que quand j'évoquais les jumeaux numériques pour faire des tests, c'est dire je réduis ou je souhaite réduire la part d'incertain. Je ne veux pas qu'il y ait un terme à un moment plaisant qui est l'existence. Et donc effectivement, le problème, c'est que la durabilité de ce système, c'est que elle a un coût. Elle a effectivement, elle est limitée à certaines personnes. Est-ce qu'il est souhaitable ? Et c'est pour ça que le développement technologique doit s'accompagner d'éthique. Et parce que on ne peut pas en faire l'économie, c'est pas parce que la technologie le permet que c'est forcément souhaitable. Et la deuxième précaution, c'est qu'on est très fort pour comment dire surestimer les changements à long terme et on sous-estime souvent les changements à court terme. On peut télétravailler très facilement, on n'est toujours pas dans des navettes spatiales malgré l'an 2000 pour aller d'une maison à une autre.
Laurence de Villers, quand on entend votre voisin, effectivement, on voit que notre rapport au réel, y compris à la mort, va changer. On entend beaucoup parler du métavers. C'est un univers virtuel, effectivement, dans lequel on vivra dans 10 ans, en 2032.
Oui, beaucoup de choses, en fait.
C'est quoi, concrètement ?
Bah, c'est un univers virtuel. Moi, j'y vais déjà dans un métavers avec des avatars dans des conférences. Alors, on n'est pas en réalité virtuelle, on est sous forme de petits personnages, caractères artificiels sur un écran très Walt Disney, quoi. Hein. Mais il n'empêche qu'on rencontre des gens et qu'il y a une espèce de vie dans un Second Life. Vous voyez ? Donc, là, on va aller plus loin.
Mais je vous écoute. Je vois pas.
Aller plus loin.
Dans 10 ans, ce sera banalisé dans nos rapports professionnels, personnels.
Et pourquoi pas ? Je vais aller rencontrer mes ancêtres. Pourquoi pas un cimetière virtuel.
Sous quelle forme sont vos ancêtres ?
Sous forme d'avatar. Et là, il y a en Corée, par exemple, une fameuse vidéo qui tourne aussi. On voit une maman qui a perdu sa fille. La fille a été imaginée en 3D et elle dit « je peux même la toucher ». Donc, vous voyez, à travers les technologies...
Et donc, d'une certaine manière, on peut remonter au Big Bang ? Enfin, où on peut remonter...
il faudrait avoir des vidéos.
Il faut le matériel.
Il
faut le matériel.
Parce qu'on est...
Alors, attendez. C'est rassurant, il faut le matériel.
Non. Ce qui n'est pas numérisé n'existe pas.
Ce qui n'est pas numérisé, exactement. On n'a pas de vidéo, on ne peut pas faire. Et d'ailleurs, il faut toujours donner la limite. On est en train de dire on peut tout faire avec l'IA. Bon, on ne peut pas anticiper n'importe quoi. L'IA, elle se nourrit du passé.
2032, ce sera le 60e anniversaire de la disparition de Philip K. Dick, un immense romancier anglo-saxon qui avait écrit « Les androïdes font-ils des rêves de moutons électriques ?» et qui avait énormément travaillé sur l'interaction et réfléchi à l'interaction entre l'homme et la machine. Est-ce qu'on sera tous, comme dans l'adaptation d'un de ses livres, Blade Runner, des réplicants avec une sorte d'hybridation entre l'homme et la puce,
et la machine ? En tout cas, sur l'interface homme-machine, c'est-à-dire le fait qu'on puisse interagir, ce qu'évoquait Laurence de Villers, créer une fluidité dans l'usage. La difficulté, c'est qu'effectivement, ça va rentrer de plus en plus dans l'intimité de l'intégrité physique et psychique de l'humain. Et la deuxième chose, c'est que par contre, ça c'est pour le caractère inquiétant, et donc il faut s'en préoccuper de manière à l'encadrer ou le limiter. Par contre, les opportunités qui vont être peut-être la mutualisation. On ne sait pas ce que donnent des cerveaux mis en collaboration et en interaction, des éléments, une capacité créative. Est-ce qu'elle est vertueuse ? Est-ce qu'elle est problématique ? Est-ce qu'elle est justement de nature à déstabiliser les personnes qui y contribueront, on a là des pages blanches. Par contre, l'éthique va être un sujet. La seule chose avec l'éthique, c'est que aujourd'hui, ceux qui agissent sont ceux qui investissent, ne sont pas forcément ceux qui s'en préoccupent.
Et ceux qui
souhaitent s'extraire du débat, hélas, n'acquièrent pas l'expérience et l'expertise. Donc on a un vrai sujet très politique sur ces sujets-là.
Merci à tous les deux d'être venus faire cet exercice de projection.